EMCI TV vous présente Vie de foi, votre rendez-vous avec Pasteur Joël Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire.
Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude du livre de Job, un homme qui a été doublement béni. Vous savez, quand on parle de Job, souvent on parle de ses épreuves, on parle de cette tragédie terrible qu'il a vécue, mais aujourd'hui, on va s'arrêter et on va étudier le cœur de Dieu en ce qui concerne cet homme de Dieu intègre, l'homme Job. On va aller ensemble dans Job chapitre 1 au deuxième verset où nous lisons « Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. » Donc, nous retrouvons au tout début cet homme hyper béni. On a mentionné hier, en fait, comment il était vraiment béni en parlant justement de ses serviteurs. S'il avait autant d'animaux, bien, il avait besoin d'avoir des serviteurs pour en prendre soin également. Donc, on comprend que Job, selon le cœur de Dieu, c'était un homme béni. Dieu l'avait hyper béni. Il avait une belle grande famille, 10 enfants, marié. C'est un homme d'affaires, forcément, parce que s'il avait autant d'animaux, bien, c'était aussi un commerce pour lui. Avec ses chameaux, peut-être, il avait une compagnie de transport. On ignore toutes ces choses-là, mais nous savons que cet homme était hyper béni. C'était le cœur de Dieu. Souvent, on parle de Job et on oublie de mentionner ces choses-là. On lit rapidement et on se concentre sur sa tragédie, mais on oublie en fait que le cœur de Dieu est révélé au tout début. N'est-ce pas vrai? C'est bon de le savoir. Donc, 7 fils, 3 filles. Et quand on comprend le cœur de Dieu pour cet homme, bien, on va comprendre que son cœur n'a pas changé pour nous aujourd'hui. Si Dieu était bon dans le passé, Dieu est encore bon aujourd'hui. Et vous savez, quand on comprend qui est notre Dieu, on va être protégé des fausses prophéties qu'on peut entendre. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré un couple dans le ministère, et puis ces gens-là ont vécu une tragédie, mais en fait, ils ont reçu une parole prophétique, et cette personne disait, en fait, Dieu m'a révélé que vous allez vivre l'épreuve de Job. Vous allez perdre votre maison, vos voitures, votre santé. Et bref, c'était vraiment des paroles terribles, c'était des paroles de malédiction que ce couple ministériel a entendues et reçues. On se dit, mais pourquoi ces gens ont pu croire de telles paroles? Bien, c'est parce que dans le corps de Christ, souvent la tradition a régné. Et on n'a pas compris vraiment que le livre de Job nous fait un contraste entre le cœur de Dieu et le cœur du diable. Et on s'imagine que c'est la volonté de Dieu pour nous de passer par de telles épreuves. Donc, pour eux, lorsqu'ils ont entendu ce rapport-là, ils ont cru, « Ah bon, Dieu veut vraiment nous éprouver, nous purifier, et puis voilà, Dieu veut détruire notre vie au final. Hein? » C'était ça. Et puis, c'est ça qu'ils ont vécu. Ils ont vécu l'horreur. Ils ont tout perdu. Et après, ils m'ont raconté qu'ils avaient appris que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais ils s'étaient fait avoir par des fausses paroles. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous aider à comprendre que le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour, un cœur de bonté, et Dieu ne veut pas utiliser la malédiction pour vous enseigner. Venez avec moi dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. Donc, 2 Timothée chapitre 3 et au verset 16, si vous vous rappelez, hier on a mentionné que le contexte du livre de Job, en fait c'est un livre qui avait été écrit avant, certainement le Nouveau Testament, avant les bénédictions de Deutéronome 28. Donc c'est le premier livre de la Bible et on comprend que depuis ce temps-là, Dieu a parlé et Dieu a précisé des choses pour nous aujourd'hui. Et dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, nous lisons « Toute écriture » On parle ici de la parole de Dieu. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, aujourd'hui, Dieu, le Saint-Esprit, nous enseigne ses voies. Il nous enseigne à partir de la parole qu'il a lui-même inspirée. Donc, comprenez ceci. Aujourd'hui, comment est-ce que Dieu va nous enseigner? Est-ce que c'est en nous envoyant un cancer? Est-ce que c'est l'école du Saint-Esprit? En nous envoyant, par exemple, une voiture pour nous frapper? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous enseigne aujourd'hui? Non, Dieu nous enseigne par sa parole. Amen. C'est pour ça que le texte nous dit très clairement, 2 Timothée 3, 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Amen. Donc, vous devez comprendre ça. Dieu est bon, selon le psaume 145, versets 8 et 9. Alléluia. OK. Donc, on voit le cœur du Père au début de la vie de Job. Et là, on va sauter, à Job 42, où on voit, au 10e verset, l'Éternel rétablit Job. Il y a eu cette situation entre le premier chapitre et le dernier, une histoire d'horreur. Mais au tout début, ce que nous retrouvons, la bénédiction de l'Éternel, qui était sur Adam, était également sur Job. Si on revient au Jardin d'Éden, Genèse chapitre 1, au verset 26, on va voir en fait que tout ce que Job vivait, là, c'était vraiment l'onction de la multiplication qui était en opération dans sa vie, n'est-ce pas? Imaginez 10 enfants, vous avez 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. C'est un homme qui était très béni. Et on comprend en fait que dans le Jardin d'Éden, c'est là où Dieu a déclaré la bénédiction sur l'être humain. Et puis, on va lire ensemble, Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, tout comme Job, n'est-ce pas, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Remarquez au verset 28 maintenant, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, le cœur de Dieu pour Adam, on le retrouve aussi dans la vie de Job. Job, c'était un homme certainement qui bénéficiait de la bénédiction de l'Éternel qui était sur sa vie. Une bénédiction qu'on peut voir ici avec une onction de multiplication. Beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants, beaucoup d'animaux, hallelujah, beaucoup de provisions et même beaucoup d'honneur. C'était un homme éminent. Et là, entre tout ça, Job perd tout. Il perd même sa santé, sauf il ne meurt pas. Il ne perd pas sa vie. Et on va découvrir des raisons pourquoi. Mais là, on va voir maintenant la fin de vie de Job, où on va encore voir le cœur de Dieu qui est toujours demeuré pareil pour Job. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignèrent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, ou dans certaines traductions, que l'Éternel avait laissé venir sur lui. Et chacun lui donna un kesita, ou une pièce d'argent, et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, remarquez bien au verset 12, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'en avait reçu dans les premières. Il possédait 14 000 brebis. Donc, on part de 7 000 maintenant à 14 000 brebis, 6 000 chameaux, gloire à Dieu, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânes. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom Jemima, ou en anglais Jemima, jour après jour, c'est le sens du mot Jemima, belle comme le jour ou une colombe qui est un symbole du Saint-Esprit, à la seconde celui de Ketia qui veut dire parfum, et à la troisième celui de Keren Hapuk qui représente en fait une corne ou un symbole de force et d'honneur. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Verset 16. Jésus vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Donc 140 ans après son épreuve. On voit ici le cœur de Dieu pour Job au début. Et le cœur de Dieu pour Job à la fin de sa vie. OK, gloire à Dieu. Et là, pour nous, on peut comprendre aussi que c'est le même cœur que Dieu a pour nous. Et vous allez dire, oui, mais pas ça, Joël. Il y a vraiment une histoire d'horreur entre le début et la fin. Et on va y arriver. Soyez patient avec moi. Mais on veut prendre le temps, vraiment. On veut prendre le temps et se concentrer sur la vérité qu'on doit comprendre. Parce que la majorité des gens vont mettre l'accent uniquement sur l'épreuve. Vous avez dit, oui, mais dans la Bible, c'est ce qu'on voit, le début et la fin, c'est très, très bien, mais au milieu, là, dans Sandwich, c'est terrible. Et c'est vrai. Mais puisqu'on a tellement mis d'accent juste sur l'épreuve, on veut prendre le temps et comprendre le cœur de Dieu. Parce que dans le milieu de ce livre-là, on va découvrir le cœur du diable. On va voir comment le diable est méchant, comment il aime détruire des vies. Mais on va prendre le temps aujourd'hui, on va découvrir certaines choses. J'aimerais vous inviter avec moi. Venez avec moi dans le psaume 91. Dans le psaume 91, on va découvrir des belles promesses de la part de Dieu pour nous tous. Amen. Donc, le cœur de Dieu au début, le cœur de Dieu à la fin et le cœur de Dieu pour vous aujourd'hui, on retrouve dans le psaume 91. Il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Là, au verset 2, il est écrit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. » Je peux dire mon refuge et ma forteresse si je crois que Dieu est mon refuge et ma forteresse. Mais si je crois que Dieu est la source de mes problèmes, au lieu d'être mon refuge, je vais plutôt dire ma fuite. Oh non, je vais courir le plus rapidement possible pour éviter de côtoyer ce Dieu-là. Mais quand on a la révélation du cœur du Père, on va dire, non, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Remarquez bien au verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion ou les fléaux qui frappent en plein midi. Non, donc on ne craindra pas la maladie, on ne craindra pas les attaques de l'ennemi. Pourquoi? Verset 7, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Il vous a dit, « Oui, mais dans le livre de Job, on voit que Job a été atteint. » Oui, et on va y arriver. Verset 8, « De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Remarquez bien là au verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, donc sur toutes les œuvres du diable. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir ma délivrance. Voici un texte pour nous aujourd'hui. Un texte que nous pouvons lire, méditer et croire. Aucun malheur ne t'arrivera. Pouvez-vous croire ça aujourd'hui? Si vous dites, ben pas vraiment. Honnêtement, non, Pasteur Joël, parce que j'ai lu le livre de Job et je crois que les malheurs peuvent nous arriver si Dieu le permet. Si Dieu veut que je sois détruit, si Dieu veut que je perde mon entreprise, si Dieu veut que je perde mes enfants, c'est Dieu qui décide. Voilà, c'est ça que j'ai compris en lisant le livre de Job. Frères et sœurs, ce n'est pas la leçon qu'on doit comprendre en lisant le livre de Job. Cette semaine, on passe toute une semaine, on va décortiquer des choses, mais on doit y aller doucement, lentement. On doit prendre le temps et vraiment faire face à certaines croyances qui règnent dans le corps de Christ. Parce que, vous savez, on peut lire le psaume 91. Combien de fois on peut lire le psaume 23, le psaume 103? Nous sommes avec des chrétiens. Tout le monde va dire « Amen, oui, Amen, aucun malheur ne t'arrivera, Amen. » Mais, dans le fond de ma tête, le fond de ma pensée, mais, est-ce que je peux vraiment croire ça? Je ne sais pas trop. Je trouve le livre de Job semble être une contradiction. Bref, mais on va y arriver, frères et sœurs. On va comprendre. Aujourd'hui, je peux croire le psaume 91. Je peux relâcher ma foi et dire, Seigneur, tu l'as dit, c'est ta promesse. Et c'est ça que je vais croire. Je vais lire un autre texte, le psaume 103. Je l'ai mentionné, venez avec moi, dans le psaume 103. Vous arriverez à une place dans votre vie chrétienne, à un endroit spirituel où vous ne douterez plus jamais des promesses de Dieu. Alléluia. Le psaume 103, il est écrit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie... » Ben remarquez, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu veut qu'on se rappelle constamment des bienfaits de notre héritage. Amen. Donc, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais quels sont ces bienfaits-là? Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, on est tous d'accord, Dieu pardonne tous nos péchés. Amen. Toutes les églises de la planète vont dire amen, amen, amen. Mais là où on va être en désaccord, c'est dans la deuxième partie du verset 3. Qui guérit toutes tes maladies. La Bible dit très clairement, Dieu guérit toutes nos maladies. Amen. Hallelujah. Moi, je le crois. Si vous dites, ben, notre association d'église dit autre chose. Qu'est-ce qu'on veut croire dans la vie? L'opinion des hommes ou la parole de Dieu? Amen. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Ce texte-là, en fait, la fosse se réfère, en fait, à la tombe. OK? Donc, Dieu veut vous délivrer d'une mort prématurée. Hallelujah, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Gloire à Dieu. Vous voyez ici ce texte-là, moi je l'aime beaucoup, parce que ce texte me dit encore une fois que Dieu est bon. Hallelujah, c'est ça qu'on a vu dans notre première émission, la bonté de Dieu pour tous. Aujourd'hui, je peux continuer à croire que Dieu est bon. C'est lui qui me couronne de bonté. Et ce n'est pas une petite couronne miniature sous ma tête. En fait, c'est littéralement une couronne qui recouvre tout mon corps. Vous dites, Pasteur Joël, est-ce que tu crois que tu vis dans une bulle? Hallelujah! Oui, je le crois. Je vis dans une bulle de protection. Je vis dans une bulle de santé divine. Gloire à Dieu. Il peut avoir des maux qui courent. Il peut avoir la gastro. Il peut avoir la grippe. Il peut avoir toutes sortes de choses. Mais gloire à Dieu, en Christ, je peux bénéficier de la santé divine. Parce que je crois que par ses meurtrissures, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Hallelujah! Gloire à Dieu pour ça. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Hallelujah! Gloire à Dieu. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Vous voyez, ça c'est important. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. On l'a vu dans le psaume 94, mais on le retrouve ici également. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos iniquités ou nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Hallelujah! Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et je pourrais poursuivre dans cette lecture, je ne prendrai pas le temps, mais vous pouvez juste méditer sur la bonté de Dieu. Hallelujah! Le début de la vie de Job nous révèle le cœur du Père pour lui et la fin de sa vie nous révèle aussi le cœur du Père. Le cœur du Père pour vous, c'est la même chose. Il veut votre bien. Il veut que vous puissiez avancer à tous les niveaux, dans vos affaires, dans votre famille, dans votre corps. Mais le diable, lui, le voleur, l'adversaire, dans le livre de Job, nous découvrons le diable comme étant l'adversaire, celui qui est contre vous. Et lui, il veut vous voler, vous égorger et vous détruire. Là, vous allez dire, oui, mais Pasteur Joël, maintenant, je veux arriver à une compréhension. Pourquoi la souffrance de Job? Pourquoi Job a souffert? Aujourd'hui, on va commencer à répondre à cette question et on va poursuivre certainement dans notre prochaine émission. On va décortiquer des choses. Pourquoi Job a souffert? Mais là, pour y arriver, on doit commencer au début. On va aller dans Job chapitre 1 et au verset 6. Venez avec moi dans Job, chapitre 1, au verset 6, et je vais vous lire ici à partir de la version Sommeur, où nous lisons. « Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur, ou Satan, vint aussi parmi eux. » Verset 7. « L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc? » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Verset 8. Alors, l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » J'aimerais qu'on s'arrête ici 2 secondes. Vous savez, pensez-vous que Dieu connaît toutes choses? Moi, je crois que oui. Moi, je crois que Dieu connaît toutes choses. Et je crois, en fait, que Dieu avait vu l'adversaire qui rôdait autour de Job, cet homme intègre, cet homme de bénédiction. Peut-être le diable avait essayé de le tenter. Peut-être le diable voulait qu'il chute. Qui tombe dans le péché. Peut-être le diable essayait de le rendre instable dans les voies de Dieu. Mais cet homme demeurait stable, fidèle, intègre. Gloire à Dieu. Le diable rôdait autour de lui. Il rôdait. Et puis, La Bible nous dit que, en fait, le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, je crois que le diable, même à l'époque, rôdait. Il voulait dévorer la vie de Job. Il voulait le détruire. Donc, quand Dieu pose la question, au verset 8, tout comme quand Dieu a parlé à Adam, il a dit, mais pourquoi tu te caches là? Hein? Et là, Adam, en fait, répond, mais vous savez, Dieu connaissait déjà la réponse. Dieu connaît les réponses de tout, là. L'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? » Je crois pas que le ton, c'est « As-tu remarqué, mon serviteur Job? » Je connais rien, moi, du tout. Non, non, Dieu connaissait toutes choses. Dieu dit, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? » En autre mot, je pense que tu l'as remarqué, hein? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire le mal. Au verset 9, l'accusateur lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Dieu craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? » Ici, là, c'est intéressant. Remarquez bien au verset 10, « N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection. » Vous savez, dans la protection divine du psaume 91 qu'on a lu, justement, c'est ça que Dieu fait. Nous sommes protégés en lui. Nous pouvons déclarer, oui, je vis dans une protection surnaturelle sur ma vie. Je peux plaider aujourd'hui, dans cette nouvelle alliance, je peux plaider le sang de Christ sur moi-même, sur mes enfants, sur ma maison, sur mes voitures. Même quand je pars en voyage, je plaide le sang de Jésus sur mes valises. Quand je prends l'avion, je plaide le sang de Jésus avant de prendre l'avion. Je décrète par mes paroles le sang de Christ. Je suis protégé en Jésus. Alléluia! Tout comme le peuple d'Israël a été protégé lorsque le destructeur, l'ange destructeur est venu lors de la dernière plaie dans l'Exode, pardon. La plaie en Égypte. Donc, on voit, quand je verrai le sang, je vais passer au-dessus. Je vais passer au-dessus et vous serez protégés. C'est la même chose quand nous plaidons le sang de Jésus. C'est le sang de Christ qui nous recouvre, qui nous protège. Mais là, Job dit, est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises? Job, il dit ici là, que Dieu, tu as fait réussir les entreprises de Job. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays, au verset 11. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. Au verset 12, alors l'Éternel dit à l'accusateur, tous ses biens sont en ton pouvoir. En fait, si nous lisons ce texte-là dans la version Louis II, dans le livre de Job. En fait, on retrouve ici une traduction un peu différente dans le livre de Job, au premier verset. Nous retrouvons ici, au verset 12, l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Dans la Louis II, nous disons « Je te le livre. » Mais je préfère la traduction Sommer ici. Remarquez bien. « Tous ces biens sont en ton pouvoir. » En fait, c'était ça la réalité. Déjà, tous ses biens étaient déjà vulnérables à ce moment-là. Et vous comprendrez pourquoi. On va y arriver. On avance doucement là. Mais vous verrez pourquoi plus tard. Alors, l'Éternel dit à l'accusateur, ici la vérité, Dieu lui dit, « Tous ses biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Alors, l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. » Si on peut afficher l'image numéro 4, s'il vous plaît. J'aimerais vous aider à comprendre ceci. Très, très, très important. Si Job servait Dieu par égoïsme, comme Satan supposait, là, pour servir ses propres intérêts, il n'était pas vraiment un homme juste et intègre, mais plutôt un hypocrite. Par conséquent, si l'accusation contre Job était vraie, Dieu aurait menti en déclarant Job intègre. Voyez-vous l'enjeu ici, là, frères et sœurs? Voyez-vous l'enjeu? C'était toute une accusation, non seulement contre Job, mais en fait, le rapport de Dieu sur Job était même en question ici. Dieu, tu dis que cet homme-là est intègre, mais moi, je dis, l'accusateur dit, l'adversaire, en fait, non, non, non. La seule raison pourquoi Job t'aime, là, c'est parce que tu l'as béni. Non, non, c'est la seule raison. En fait, moi, je crois aussi que le diable supposait que personne ne veut t'aimer. Personne ne veut vraiment t'aimer, toi, Dieu. La seule raison que quelqu'un veut te suivre et t'aimer, c'est parce que tu l'as béni. Tu as établi un rempart de protection autour de lui. C'est la seule raison. Personne ne veut te suivre. Et, en fait, vous savez, si Dieu avait menti sur Job, si c'était vraiment vrai ce que le diable disait, si l'accusation du diable était véritable et que Job, c'était simplement un hypocrite, un profiteur de Dieu, bien, Dieu était un menteur. Si c'était vrai, si le diable disait vrai, le Seigneur disait faux. Le Seigneur mentait au sujet de Job. Voyez-vous l'enjeu? Il y avait toute une situation compliquée ici. Donc, Dieu a dit, il est déjà dans ton pouvoir. Pourquoi que Dieu a dit ça? Pourquoi? Restez avec moi, on va poursuivre. De plus, si Dieu acceptait l'adoration d'un hypocrite, Dieu ne serait pas intègre lui-même, car il aurait appuyé l'hypocrisie. Donc, l'épreuve de Job a exonéré ou déchargé Job et Dieu de ces fausses accusations-là. Donc, l'histoire continue. L'adversaire a pu supprimer toutes les possessions de Job, tous les siens, prouvant que le menteur était véritablement Satan et pas Dieu. Et une chose qu'on doit comprendre aussi concernant l'accusation de l'adversaire. Job a vécu avant la loi mosaïque, n'est-ce pas? Et dans Romains 5, 13, nous lisons aussi, dans certainement le Nouveau Testament, « Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. » Donc, si Dieu avait empêché l'épreuve de Job, ce que nous devons retenir aujourd'hui, la confirmation des trois faits suivants aurait été empêchée. Notre cinquième image, l'amour de Job pour Dieu. Deuxièmement, la droiture de Job. Et finalement, l'intégrité de Dieu. Ces trois faits-là n'auraient pas pu être confirmés si Dieu avait empêché l'épreuve de Job. Donc, Dieu a permis, oui, Dieu a permis, mais son cœur, je suis certain, était attristé. Et après cette permission, Dieu a déclaré des paroles, des promesses. Aujourd'hui, dans notre nouvelle alliance, est-ce que le diable peut répéter ce qu'il a fait à Job? Dieu nous a fait des promesses de protection surnaturelle. Alléluia! Et je crois les promesses de Dieu aujourd'hui. Je veux vous encourager aussi à être renouvelé dans la parole de Dieu. Étudiez votre forfait divin en Christ et vous verrez si le diable vient vous accuser. Ah, alléluia! Vous pourrez dire, il est écrit! Non! Job, ici, là, cette histoire du passé, elle est terminée. Aujourd'hui, en Christ, nous avons une meilleure alliance. Alléluia pour ça! Parce que Job, vous savez, Job a vécu avant l'écriture de Deutéronome 28, avant la déclaration de Deutéronome 28. Donc, alléluia pour ça! Demain, on continue dans cette étude biblique fort intéressante. C'est demain. Merci d'avoir été là. Soyez richement bénis. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires, des gens qui vont croire avec nous, qui vont semer 35 $ ou euros par mois, nous appuyant dans la vision d'établir des nouveaux studios de télévision, les conférences EMC dans les nations, ainsi que EMC Academy. Joignez-vous à l'armée grandissante de partenaires dès aujourd'hui.
Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur emcitv.com.